OK, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse chapitre 11, les versets 3 à 6. Apocalypse chapitre 11, les versets 3 à 6. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, ceux qui ont les notes, vous pouvez voir le titre que j'ai donné. C'est le triomphe du témoignage prophétique pour Jésus, pour Jésus-Christ au milieu de l'oppression. Je pense que l'idée principale du texte, c'est celle de nous démontrer, parce que si vous vous souvenez du verset 1 et 2, le Seigneur avait demandé à Jean de mesurer le temple, de mesurer l'autel, de mesurer ceux qui y adorent, et de ne pas mesurer le parvis. Et le but, c'était de faire une distinction entre les véritables croyants et les non-croyants. Maintenant, à partir du moment qu'on sait qu'il va y avoir une protection qui va être accordée aux croyants et qui ne sera pas accordée aux non-croyants, le Seigneur est en train de nous rappeler que durant toute la période entre son ascension, quand il est monté au ciel, et son retour, c'est long, là, c'est toute la période depuis que le Seigneur est monté au ciel, jusqu'à ce qu'il revienne. Il est en train de nous dire que le témoignage pour Jésus-Christ va être, on va toujours persévérer, malgré les difficultés, malgré l'opposition, malgré la violence que les ennemis de Dieu vont chercher à faire taire le peuple de Dieu, vont chercher à arrêter le témoignage de Jésus-Christ. Le texte ici, c'est de nous montrer que le triomphe du témoignage, triomphe, ça veut dire qu'on gagne. Mais si vous lisez un petit peu plus loin dans le verset 7, on n'est pas rendu là, la semaine prochaine, cette semaine, j'avais l'intention d'aller jusqu'au verset 13, puis à fin de compte, il y a tellement de stock, comme on dit dans le verset, que j'ai décidé de raccourcir un peu. Mais à partir du verset 7, vous allez voir que Dieu, à un moment donné, va permettre qu'après que le témoignage pour Jésus-Christ ait été complété, il va permettre que la bête vainque l'Église et les fasse-taire, autrement dit. Mais le but de cette semaine, avec le passage qu'on est en train de voir, c'est pour montrer que l'Église de Christ, tout le temps qu'elle va être sur la terre, à partir du moment où ce que le Seigneur est monté au ciel, quand il est monté au ciel, là, l'ascension qu'on appelle, jusqu'à son retour, les chrétiens, malgré les difficultés, malgré les attaques de l'ennemi, malgré la souffrance, malgré... Si quelqu'un étudie l'histoire de l'Église, là, c'est très intéressant d'étudier l'histoire de l'Église à partir du début jusqu'à aujourd'hui. Parce que le malin n'a jamais lâché. Il a toujours pris tous les moyens à sa disposition pour essayer de faire taire les chrétiens. Le Seigneur ici veut nous rappeler une chose. L'ennemi ne nous fera jamais taire. Parce qu'il va nous donner ce qu'il faut pour qu'on soit capable de témoigner pour Jésus-Christ. Et la force qu'il va nous donner vient du Saint-Esprit. C'est ce qu'on va regarder un petit peu comme principale idée dans le texte d'aujourd'hui. Alors, l'auteur très renommé, J.K. Beal, ça, là, je ne sais pas si... Moi, la première fois que j'ai acheté ça, j'étais quasiment découragé. J'ai acheté ce livre-là parce que j'ai fait une recherche sur Internet pour savoir, selon dans les milieux chrétiens, évangéliques, chrétiens, quel était l'auteur qui, semble-t-il, donnait le meilleur commentaire sur l'Apocalypse. Et j'avais trouvé que c'était J.K. Beal. Fait que j'ai acheté cette brique-là, 1200 pages. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit, wow, ça n'a pas fini. Parce que j'ai jamais vu un gars aller autant au fond des choses. Il prend un verset, là, puis juste avec un verset, il est capable de faire 7-8 pages avec ça. Mais il part dans toutes sortes de directions, il va dans l'Ancien Testament. Et il est très utile, mais à la fois difficile un petit peu à suivre. Alors voici ce qu'il dit dans son livre, The Book of Revelation. Il fait une remarque concernant les versets 3 à 6 du chapitre 11. Il dit, les versets 3 à 6 expliquent le but principal de la mesure des versets 1 et 2. On se souvient, c'est quoi la mesure? Dieu avait demandé à Jean de mesurer le temple, de mesurer l'autel et de mesurer ce qu'il y a d'or. Et il avait dit, le parvis ne le mesure pas. On avait vu, quand on a fait cette section-là, c'était Dieu voulait montrer à Jean qu'il fallait qu'il fasse un départage, il fallait qu'il départage les croyants des non-croyants. Mais aux croyants, il voulait leur dire quelque chose. Il voulait leur dire que peu importe ce qui va se passer, entre le moment où le Seigneur est monté au ciel et le moment qu'il va revenir, il va y avoir énormément d'opposition sous toutes sortes de formes, plus violentes les unes que les autres, mais vous allez toujours être capable de persévérer jusqu'à la fin. Même dans les moments extrêmement difficiles, il y a eu des périodes de l'histoire où témoigner du nom de Jésus-Christ, c'était risquer ta vie. Et ça peut revenir. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Là. Ça peut revenir. Si jamais ça reviendrait, le Seigneur nous dit que par le Saint-Esprit, il nous donne la capacité de vaincre toute opposition que l'ennemi pourrait mettre dans nos jambes pour essayer de parler du Christ. Alors, il dit, c'est Dieu qui veut assurer aux croyants de l'établissement de sa présence parmi la communauté du temps de la fin comme son sanctuaire et que cette présence vise à assurer l'efficacité de leur témoignage prophétique. On va voir tout à l'heure, il y a deux sens qu'on peut donner au mot prophétiser. On peut parler au nom de, et on peut prédire l'avenir. Souvent, on est porté à utiliser la prophétie comme étant une prédiction de l'avenir. Ce n'est pas toujours vrai. Souvent, la prophétie, c'est parler au nom de. En anglais, ils ont deux mots, foretelling, F-O-R-T-H, foretelling ou fore, F-O-R-E, ça veut dire prédire. Un, qui dit prédire, l'autre parler au nom d'eux. Alors, des fois, dans la prophétie, Dieu est en train de dire à ceux qui lui appartiennent, peu importe les difficultés que vous allez rencontrer, peu importe l'opposition que vous allez rencontrer, je vais vous donner la force, la capacité, la persévérance d'aller jusqu'au bout, même dans les circonstances les plus difficiles. Très intéressant. Assurer l'efficacité de leur témoignage prophétique. Ils doivent être des prophètes, comme les grands prophètes de l'Ancien Testament, comme Moïse et Élie. Parce que les images qu'ils utilisent dans le texte d'aujourd'hui, ils font des références à Moïse, parce que l'eau, changer l'eau en sang, on se souvient, c'est quand ça s'est fait, c'est Moïse avec la sortie d'Égypte. Et l'autre, faire arrêter la pluie, on se souvient que c'est Élie. Donc, il est en train de nous dire que durant toute la période où que le Seigneur va être absent, il va être au ciel, là, mais que nous, on va avoir la capacité de prophétiser par la force de son Saint-Esprit. Peu importe le degré de difficulté. Alors, ils rendront un témoignage prophétique de Jésus malgré les souffrances endurées et les persécutions. Alors, le but du passage de 3 à 6, c'est vraiment de dire à l'Église, n'oubliez jamais que peu importe les souffrances, peu importe les difficultés, peu importe le degré d'opposition que vous allez rencontrer, je vais toujours vous appuyer en vous donnant la force nécessaire pour être capable de persévérer dans le témoignage de Jésus-Christ. C'est-tu pas encourageant, ça? Moi, je trouve que c'est très encourageant parce que quand ça commence à chauffer, là, juste pour les besoins de l'illustration, qu'on nous dirait, à partir d'aujourd'hui, là, tout chrétien qui parle du Seigneur à quelqu'un d'autre s'en va en prison. Est-ce qu'on continuerait à parler du Seigneur? On serait porté à dire, ben non, on va avoir bien trop peur. C'est vrai, il faut se voir tel qu'on est, on est les peureux. Et s'ils nous mettraient en pression comme ça, c'est vrai qu'on serait tenté à dire, moi je parle plus du Seigneur parce que je tiens ma peau puis je tiens à mes privilèges puis à toutes mes affaires. Mais Dieu nous dit que peu importe ce qu'ils vont faire, Même s'ils nous menacent, même s'ils voudraient nous empêcher de témoigner Jésus-Christ, ils ne seront jamais capables, parce que Dieu va nous donner à mesure ce qu'on a besoin pour être continué de le faire. Alors, même s'ils nous diraient ça, moi j'ai lu un livre, là, un gars en Europe, un pasteur, Wombrun, je pense qu'il s'appelait. Il était dans les pays communistes d'après-guerre. Et il témoignait de Jésus-Christ autour de lui, là, sans arrêt. Et il s'était défendu par l'armée russe, parce qu'il y avait des Russes là-dedans, c'était communiste, s'était défendu par l'armée communiste de parler de Jésus-Christ autour de lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le bonhomme? Il a parlé de Jésus-Christ plus que jamais. Qu'est-ce qu'ils ont fait, lui? Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Puis là, ils ont fait la guerre psychologique, ils ont dit, ta femme, là, elle est seule, puis elle souffre, puis elle scie, puis... autrement dit, ils faisaient une guerre psychologique pour montrer que c'est mieux d'arrêter parce que même ta famille, elle va pas bien. Il mettait une pression terrible. Et c'est bizarre, il a fait 2-3 ans en prison. Il raconte dans sa biographie qu'il est presque venu fou parce qu'il était dans une cellule tout seul pendant 2-3 ans. Puis là, ils l'ont sorti. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il y en a bien qui dirait, ben moi, je parle plus du Seigneur, ça a beaucoup de temps, c'est cher. Mais lui, il a continué à parler du Seigneur. Puis il y en a de plus en plus qui sont venus au Seigneur par sa force. Mais est-ce qu'on regarde Ron Brown, si je me souviens bien de son nom, comme un héros différent de nous? Non! Ron Brown n'était pas plus que nous autres. La seule différence qu'il y a, c'est que l'Esprit de Dieu était tellement enraciné dans sa personne et qu'il n'était pas capable d'arrêter de prêcher Jésus-Christ autour de lui. Et il y a eu une multitude de personnes qui se sont converties suite à son témoignage. Je pense que c'est à peu près l'esprit de ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire ici aujourd'hui dans le message. Peu importe ce que vous allez rencontrer comme difficulté, je vais vous donner la capacité de le faire. Mais la capacité ne vient pas de ton courage humain. Il vient que le Saint-Esprit vient te donner la capacité, la force de le faire. Très important de réaliser ça, là, parce que... Je me souviens d'avoir déjà discuté de ça dans une église avec d'autres personnes. Disons que le gouvernement nous dirait, vous n'avez plus le droit de parler de Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui. Si vous pognez à parler de Jésus, vous allez en prison. Vous perdez votre job, puis vous perdez votre salaire, puis vous avez... etc. Moi, je me souviens, quand on discutait de ça, les personnes en général disaient, moi, je pense que je ne serais pas capable. Je pense que je ne serais pas capable de continuer de parler de Jésus parce que la pression sera trop forte. C'est justement ce problème-là qu'ici le texte nous dit. Jamais la pression sera assez forte pour que le Saint-Esprit, que je vous donne la force, la capacité de faire, de continuer. Alors ici, le Seigneur lui-même veut rassurer l'apôtre Jean. Et bien sûr, en rassurant l'apôtre Jean, il rassure l'Église tout entière aussi de toutes les époques. Apocalypse, là, chapitre 11, ce qu'on est en train de lire, versets 3 à 6, là. Il y en a du premier siècle qui l'ont lu, deuxième siècle, troisième siècle. Donc, ça parlait à toutes les églises de toutes les époques que Dieu... Et si vous lisez l'histoire de l'Église, si jamais vous vous intéressez à l'histoire de l'Église, vous allez voir qu'il y en a des chrétiens, l'Inquisition, ceux qui sont un petit peu au courant de l'histoire de l'Église, l'Inquisition, c'était terrible, là. Ils te rentraient dedans, ils te torturaient, il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait aux chrétiens. Comment c'est que ces gens-là ont réussi à passer à travers? C'est-tu parce qu'ils étaient plus courageux que nous autres? Non. C'est parce que Dieu les soutenait. Dieu a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre moi. Lui, il dit, je vais bâtir mon église. Et comment que le malin se mettra dans ma route? Je vais bâtir mon église. Et il va donner à ses enfants la capacité, la force, la puissance, la persévérance de continuer son œuvre. Moi, je trouve ça fantastique comme message. Parce que je me dis, je sais que je suis un peu heureux. Ne me fais pas d'illusion là-dessus, moi, là. Je sais que je suis un peu heureux de nature. On est tous des peureux de nature. La preuve, c'est que souvent, on a des occasions de témoigner et on ne témoigne pas. Qu'est-ce qui nous empêche de témoigner? La peur! On a peur que les autres nous disent, ben là, ton Seigneur, achale-moi pas avec ça, là. C'est ça qu'on a peur. La Bible nous dit que le Seigneur il peut nous donner tout ce qu'on a besoin pour continuer à partager son évangile. Donc, leur témoignage sera efficace, le témoignage de l'Église en général sera efficace, mais il faut prendre conscience de où vient la force. Par le Saint-Esprit. On va voir des versets tantôt. L'expression aussi, l'expression qui dit qu'ils se tiennent en présence du Seigneur de la terre, signifie aussi une relation éternellement sûre des fidèles avec Dieu. Quand ça dit dans le texte qui se tient devant le Seigneur de la terre, il est en train de dire que peu importe ce qu'ils vont te faire, supposons qu'il dirait « Tais-toi, on ne veut plus que tu parles du Seigneur, puis tu continueras à parler pareil », il dirait « Ok, d'abord, on va t'emprisonner. » La personne sort, elle continue à parler du Seigneur. « Ok, si tu continues à faire ça, on va te torturer. » Il te torturerait. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent te faire au maximum de leur capacité si tu es ton corps? Ton âme, elle est assurée que le Seigneur t'a sauvé, il va te prendre de où qu'il t'a pris, puis il va te rendre jusqu'au bout. On n'a pas à avoir peur des hommes. On a peur pareil. Je sais qu'on a peur pareil. Mais excepté que le Seigneur, il nous dit que quand l'expression qui se tienne en présence du Seigneur de la terre, ça veut dire que les deux témoins sont tellement sûrs de leur destinée éternelle que peu importe ce qui leur enlève la vie, ils vont être gagnants pareil parce qu'ils ont la vie éternelle. Ils vont se ramasser avec le Seigneur. C'est très important de réaliser ça. Alors, le Seigneur, il veut signifier à son peuple que l'Église, les croyants, vont connaître de grandes difficultés et de grandes souffrances à mesure que le monde et Satan augmenteront leur opposition à Jésus-Christ et à son Évangile, et plus particulièrement lorsque le temps de sa deuxième venue approchera. Tout à l'heure, on parlait, il y en a qui disaient... le Seigneur est allé nous préparer une place, j'espère qu'il achève la préparation. Bien, il y en a beaucoup qui pensent qu'on est proche du retour du Seigneur. Mais si on est proche du retour du Seigneur, le texte est en train de nous dire que plus on va s'approcher du temps de la fin, du retour du Seigneur, plus l'opposition va augmenter, va être plus sévère. Alors là, on sera porté à se décourager. Bien, voyons donc, c'est même pas sévère, j'ai peur. Fait que s'il faudrait que ça devienne sévère, qu'est-ce que je vais faire? Je vais abandonner. Dieu dit que si tu es un véritable croyant, il n'est pas en train de te dire que tu es assez courageux pour passer à travers, il est en train de te dire, je vais te donner la force nécessaire par mon Saint-Esprit, par Dieu lui-même, qui t'habite comme croyant, on sait, on est régénéré, on est habité par le Saint-Esprit de Dieu. Des fois, c'est la chair qui nous empêche de parler de Jésus parce qu'on a peur. Mais si on laissait l'Esprit prendre toute sa place, on n'aurait jamais peur de rien. Peu importe ce que tu me fais, tu veux me casser la gueule, tu veux m'envoyer en prison, fais ce que tu veux. Moi, ma destinée éternelle est assurée. C'est de même qu'on devrait tout le temps réagir en toute chose, en tout temps. Mais c'est pas de même qu'on réagit. Alors, le Seigneur va nous préserver, va nous fortifier. Et autre chose, le mot « habilité » dans le texte, ceux qui ont les habilité, ça veut dire, si tu prends le dictionnaire Robert, ça veut dire rendre légalement capable d'exercer certains pouvoirs, d'accomplir certaines tâches. Moi, je compléterais un petit peu la définition du Robert de la manière suivante. Rendu divinement capable par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas que si la pression devient énorme, qu'on nous dit « Ah, ben là, toi, t'es courageux. Ah, toi, t'es fort dans le Seigneur, tu vas passer à travers. » Sans le Saint-Esprit, tu passeras pas à travers. Sans l'aide de Dieu, tu passeras pas à travers. C'est Dieu qui va nous aider. Alors, c'est Dieu qui va nous habiliter, nous rendre capables. On sera porté à dire, s'il nous menacerait vraiment, là, est-ce qu'on continuerait? Je pense qu'il y en a plusieurs qui seraient portés à dire « Ben, moi, je ne suis jamais capable de faire ça. » Oui, tu as raison. Faut analyser ta phrase. « Je ne serai jamais capable. » Mais Dieu peut te rendre capable. Ça, c'est très différent. Là. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous annoncer dans ce passage-là? C'est que durant toute la période prévue par Dieu, par décret divin, un décret divin, c'est une décision divine. La décision de Dieu est la suivante. À partir de l'ascension de Christ jusqu'à sa deuxième venue, vous allez être rendu capable de témoigner de mon nom, malgré peu importe les difficultés, peu importe les souffrances. Alors, ils vont jouir, qu'on pourrait dire, d'une certaine invincibilité, puisque la présence même de Dieu avec eux garantira qu'ils ne peuvent être affectés dans leur destinée éternelle d'aucune manière. C'est vrai que c'est rassurant quand on se met à s'arrêter, disons qu'ils on dirait, ils nous mettraient de la pression. Là, nous autres, on dirait, un petit peu comme Warren Brown que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé là, dans son cœur, dans son esprit? C'est sûrement que le Saint-Esprit lui a mis à cœur « Continue à parler de moi quand même! » Et il l'a fait. Mais ça lui a coûté vraiment très cher dans sa vie. Lui, sa vie, c'était une vie de souffrance épouvantable. Mais qu'est-ce qui l'a rendu capable de passer à travers et de persévérer là-dedans? C'est le Saint-Esprit. Alors, les versets 5 et 6 nous mentionnent qu'un grand pouvoir sera confié aux témoins de Christ. Alors, on parle dans les versets 5 et 6 qu'ils ont une puissance d'infliger des punitions aux ennemis de Dieu et aux ennemis de l'Évangile. Et je pense que durant ces versets 5 et 6-là, les souffrances que les deux témoins vont faire subir à ceux autour d'eux, là, dans le fond, Dieu est en train de leur donner le message que le jugement de Dieu s'en vient pour eux. Le jugement final et les grandes épreuves. Parce qu'on parlait qu'on était dans la deuxième, on a parlé de trois grands malheurs. À un moment donné, on a vu qu'il y avait, ça arrêtait là. Le troisième grand malheur va venir juste à partir du verset 14. Autrement dit, il est en train de dire, ces témoins-là vont persévérer durant tout le temps que Dieu a décrété qu'ils persévéreraient. Et ils vont se rendre jusqu'au bout. Et il parle de la durée de la profanation, 42 mois. 42 mois, c'est 42 fois 30 jours, parce que les Juifs ont une façon de calculer le temps. Eux autres, c'est le mois lunaire qu'on appelle, donc c'est 42 fois 30 jours, ça fait 1260. Et pas rien que le mot 1260 revient. Et aussi, il y a un lien à faire avec le livre de Daniel. Daniel au chapitre 7, verset 25. On parle de 42 mois, 1260 jours, ou 3 ans et demi, c'est le même temps. Mais on en parle à des endroits différents. Donc, Daniel 7, 25, ça dit, « Il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain, et pensera à changer les temps et la loi, et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Ça, c'est 3 ans et demi. Alors, voici ce que le pasteur et théologien réformé Herman Oxema affirme quant à la signification des 42 mois. Bien important, si on continue à persévérer dans ce qu'on a dit, qu'on prenait l'interprétation symbolique, les 42 mois, c'est un symbole, c'est pas 42 mois, là, 3 ans et demi. Alors, il dit, « Et si nous demandons quelle période est représentée par ces 42 mois, ou 1260 jours, alors je pense que nous trouvons la clé de cette explication dans le 12e chapitre de ce livre où on nous dit que l'Église est dans le désert 1260 jours. Là, il est très clair que l'Église est dans le désert depuis le temps de l'exaltation de Christ jusqu'à celui de son retour sur les nuées. Et donc, 1260 jours sont symboliques de toute la période de la dispensation actuelle. Et là, il dit que la solution est dans Apocalypse 12. Allons lire Apocalypse 12. 12, versets 1 à 6. « Or, il parut un grand signe dans le ciel. Une femme, revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. » Il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon, couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses 7 têtes, 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel et les jeta par terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. Or, elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. C'est qui ça?
Jésus.
C'est Jésus, exactement. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et vous, tous les passages s'harmonisent. Alors, on va regarder le témoignage qui est vraiment divinement prédéterminé. Autrement dit, c'est Dieu qui a déterminé que le témoignage de son Église envers la personne de Christ et son œuvre va être prédéterminé. Ça veut dire que c'est déjà décidé que ça va marcher comme ça jusqu'à son retour. Parce qu'il dit dans le verset 3, « Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, vêtus de sacs, durant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre. » Alors, le verset 2 du chapitre 11 nous avait rappelé que les gentils, qui sont les inconvertis, fouleront aux pieds la sainte cité. Ils mépriseront et profaneront l'Église de Jésus-Christ. Ils rendront donc le témoignage pour Jésus-Christ difficile, rempli de difficultés, de violentes oppositions et de persécutions. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ veut assurer son peuple qu'il leur donnera la force, la puissance et la capacité de persévérer dans le témoignage efficace jusqu'à ce que la période de temps accordée par Dieu pour ce témoignage soit complétée. Si Dieu dit que le témoignage va être fort à partir de son ascension jusqu'à son retour, c'est divinement prédéterminé. Rien à faire. Comment que le malin s'énervera, les bottines, comme on dit, il s'énerve en vain. Verset 3 nous dit quelque chose d'important. Et ici, c'est la clé de la compréhension du passage. Et je donnerai. Qui parle? Jésus. C'est Jésus qui parle. Il dit, et je donnerai à mes deux témoins. La grâce de la persévérance et de la puissance sera accordée par Jésus-Christ lui-même. La version Louis II, 1910, alors, dépendamment des versions, des fois, les mots utilisés sont différents. Louis II, 1910, dit « le pouvoir ». « Je donnerai le pouvoir ». Tandis que la version Colomb, 1978, ça dit « le don ». Intéressant, hein? Le don, le pouvoir, la capacité. Et c'est Jésus qui dit qu'il va donner ça à ses deux témoins. Et on va voir tantôt que les deux témoins, c'est l'Église. C'est Jésus qui va donner à son Église la capacité. Quand il dit « à mes deux témoins », alors, l'auteur, Beale, que j'ai parlé tantôt, affirme ce qui suit concernant l'identité des deux témoins. Il dit, là j'ai la traduction Google, je la trouve bien pratique parce que ça aide un petit peu la traduction, parce qu'il y a des bouts, des fois c'est difficile à traduire. Il dit, les deux témoins ne sont pas deux prophètes individuels, que ce soit Moïse et Élie, Enoch et Élie, Paul et Pierre. Au contraire, ils représentent toute la communauté de foi dont la fonction première est d'être un témoin prophétique. Et là, vous allez dire, comment il fait, lui, pour savoir, il parle de deux témoins, et comment il fait pour savoir que ce n'est pas deux individus, comme lui, il fait des suggestions, là, Moïse et Élie, il y en a d'autres qui disent que c'est Enoch et Élie, il y en a d'autres qui disent que c'est Paul et Pierre. Comment qu'on fait pour savoir que ce n'est pas deux individus, que c'est une collectivité? Ben, si vous avez le courage d'aller lire M. Beale, La Brique, il va vous donner 6 raisons pourquoi, lui, il croit qu'on parle d'une collectivité. C'est tout ça tient beaucoup debout, là. Après l'avoir lu, je dis oui, il a raison. Alors, il y en a un autre aussi. Alors, Beale, il défend sa position en développant de façon détaillée 6 considérations pour justifier son choix. Alors, c'est pas juste une affirmation à l'air. Ah, oh, les deux témoins, c'est, selon moi, c'est une communauté. Il dit pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis il y va. Et après, c'est à toi de juger si tu penses qu'il a raison ou si tu penses qu'il a tort. Et c'est aussi la position d'autres commentateurs réformés, comme Herman Oxema, je me sers beaucoup de son commentaire pour bâtir les sermons. Un autre, qui écrit, il y en a plusieurs d'entre vous autres qui l'ont déjà acheté, William Hendrickson, c'est un petit commentaire sur l'Apocalypse. Il a la même idée lui aussi. Et Paulin Bédard, qui est le pasteur de Saint-Georges, lui aussi croit la même chose. Et je suis convaincu qu'il y en a beaucoup d'autres. Là. Dans le milieu réformé en général, on dirait que c'est plus les deux témoins, c'est la communauté des croyants de la terre entière. Alors, Hendrickson, dans son livre, lui, il existe en français, il dit « Les deux témoins qui apparaissent représentent l'Église véritable, militante, qui rend témoignage dans la dispensation présente. Le fait qu'il y ait deux témoins souligne d'autant plus l'importance de cette tâche missionnaire. Le Seigneur a envoyé ses missionnaires deux par deux. Ce qui manquait à l'un, il l'a donné à l'autre, l'autre l'apporte. » Alors, cette période s'étend de l'ascension de Christ jusqu'au jour du jugement. Alors, vous avez plusieurs réformés qui croient la même chose. Quoi qu'on parle ici, que la force va être donnée par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ lui-même, mais va être donnée à la communauté des croyants de la terre durant toute cette période-là. Autrement dit, peu importe ce que l'ennemi va essayer d'arrêter le témoignage de Jésus-Christ, ça ne fonctionnera pas. Et on peut se poser la question, pourquoi deux? Si on dit que c'est l'Église, pourquoi deux? Alors, Paulin Bédard donne la réponse dans son commentaire. Il dit, pourquoi le nombre deux? Dans la Bible, le fait d'avoir deux ou trois témoins rend le témoignage beaucoup plus fort. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, quelqu'un ne pouvait pas accuser un autre. Disons, il disait, oh, t'as tué quelqu'un. Ça ne marchait pas tout seul. Il fallait que tu aies un témoin. Alors ici, c'est pour ça qu'il dit, il fallait qu'il y ait deux. C'est vraiment. Alors, le témoignage devient légal, devient valide et permet d'établir la vérité d'un fait ou la culpabilité d'un criminel, par exemple. Le nombre 2 souligne à la fois le sérieux et la certitude de leur témoignage en même temps qu'il établit la culpabilité de ceux qui ne croient pas dans la parole de Dieu. Le témoignage de l'Église en faveur de Jésus-Christ est vrai et certain. En même temps, il rend inexcusable ceux qui le rejettent. On arrive à l'expression de prophétiser. Il donne à ses deux témoins la force, le don, le pouvoir de prophétiser. Très intéressant ici, là, c'est très intéressant. Dans les Saintes Écritures, le mot prophétiser prend deux sens. Celui de parler au nom de. Dans l'Ancien Testament, tu avais certaines personnes que Dieu envoyait parler à son peuple Israël et il leur disait « Ainsi parle l'Éternel ». Donc, il était comme simplement un écho de ce que Dieu leur disait. Il parlait au peuple, au nom de Dieu. Mais il y a d'autres fois que le mot « prophétiser » veut dire « savoir d'avance que ce qui va arriver ». Dans l'Apocalypse, les deux sens sont là. Ceux à qui Dieu a donné le pouvoir de parler de Jésus-Christ au peuple vont parler au nom de Dieu et en même temps vont prédire l'avenir parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. Il est en train de les avertir que s'ils ne se repentent pas, il y a des jugements qui s'en viennent, qui vont être encore plus sévères. Plus on se rapproche de la fin, plus Dieu permet que les sévères... La septième trompette ouvre la porte, là. C'est la dernière trompette. Après ça, c'est plus des avertissements, c'est des jugements. Les trompettes, c'est des avertissements. Après la septième trompette, c'est l'exécution des jugements de Dieu. Alors, dans les Saintes Écritures, le mot prophétiser peut prendre deux sens. Celui de parler au nom de Dieu et celui de prédire l'avenir. Nous croyons qu'ici, les deux sens s'appliquent simultanément. L'Église de Dieu, lorsqu'elle va témoigner, au monde va leur dire, voici ce que Dieu vous dit. Et en même temps, tu parles de l'avenir, le grand jugement, le grand trône blanc qui s'en vient, et voici tous les autres malheurs qui vous attendent. Alors il y a les deux. Il parle au nom de Dieu et il prédit certaines choses qui vont se passer dans l'avenir. Alors les croyants parleront au nom de Dieu et appelleront les pécheurs à la repentance. Ils vont leur montrer leur culpabilité et leur condamnation, en plus de leur présenter le Sauveur Jésus-Christ. Même s'il leur présente le Sauveur Jésus-Christ, qu'il leur dit qu'ils sont perdus, leur dit qu'ils sont pécheurs, la grosse majorité vont s'enraciner dans le péché, vont s'endurcir dans le péché. Alors, en même temps, aussi, les croyants vont avertir aussi des jugements à venir, et en le faisant, ils vont faire l'autre aspect de la prophétie. Donc, parler de l'avenir. Parle au nom de Dieu, puis il parle de l'avenir en même temps. Les deux manières de prophétiser vont s'exercer. Alors, malgré l'opposition et les persécutions, nous recevons l'assurance que la puissance du Saint-Esprit nous rendra capables d'accomplir notre mission et de témoigner en faveur de Jésus-Christ dans ce monde avec la certitude que Dieu complétera la construction de son Église. Jésus, quand il est venu, il a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » C'est très intéressant. Plus on a la connaissance de ce que c'est l'histoire de l'Église, plus on apprécie ici la force de ce que le Seigneur est en train de dire. Il y a eu des énormes... Prenons juste l'Inquisition, ceux qui sont le moindrement petit, des centaines de milliers de personnes qui sont mortes par fidélité à Jésus-Christ. Ils ont laissé leur vie, ils ont été martyrisés, emprisonnés. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Est-ce que ça leur était le témoignage de Jésus-Christ? Non. Et ils nous disent une chose qui va se passer aussi, c'est qu'ils vont être vêtus de sacs. Très intéressant de comprendre l'expression « vêtus de sacs ». Dans la Bible, se revêtir de sacs annonce toujours de très grands jugements et une très grande tristesse. On va prendre deux exemples. On aurait pu en choisir beaucoup plus que ça, parce que les Écritures en sont pleines. Mais deux exemples très frappants. Celle de Esther. Esther, chapitre 3, verset 13, et Esther, chapitre 4, verset 1 à 3, où on sait que la race juive avait été menacée par Aman, et le décret avait été envoyé qu'il y avait la permission de tout supprimer la race juive. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va relire le verset 13, Esther 3, 13. « Et les lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les provinces du roi, afin qu'on eût à exterminer, à tuer et à détruire tous les Juifs, tant les jeunes que les vieux, les petits-enfants et les femmes, dans un même jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et à piller leurs dépouilles. » Et quand on va dans le chapitre 4, verset 1 à 3, ça dit, c'est là qu'on va comprendre le sens, la signification d'être vêtu de sac. Ça dit, « Or, car Mardochée eut appris tout ce qui avait été fait, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, et il sortit par la ville, criant d'un cri grand et amer. Et il vint jusqu'à devant la porte du roi. Car il n'était point permis d'entrer dans le palais du roi, étant vêtu d'un sac. Et dans chaque province, dans les lieux où la parole du roi et son ordonnance parvinrent, les Juifs furent en grand deuil, jeûnant, pleurant et se lamentant, et plusieurs se couchaient sur le sac et la cendre. » C'était, imaginez-vous, c'est un peu comme si nous autres nous disaient, quelqu'un a le pouvoir de tout exterminer les Québécois de la terre. On apprendrait ça, puis ça serait réel. On broyerait-tu un peu? Et tu as aussi l'exemple de Jonas, où la ville de Ninive, Dieu l'avait menacée de destruction. Jonas, chapitre 3, verset 3 à 8. Jonas se leva donc et alla à Ninive, suivant l'ordre de l'Éternel. Or Ninive était une grande ville devant Dieu, de trois journées de marche. Et Jonas commença de pénétrer dans la ville le chemin d'une journée. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Et les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands d'entre eux jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta de dessus lui son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit proclamer et dire dans Ninive par décret du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, qu'ils ne pèsent rien et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun se détourne de sa mauvaise voie et de l'iniquité qui est dans ses mains. On se souvient que Dieu, à cause qu'ils se sont repentis, Dieu il les a épargnés, mais il reste que on voit ici le rôle du sac. Alors, quand les deux témoins, on parle de l'Église qui va témoigner de Jésus-Christ, c'est parce que tu sais qu'est-ce que les gens, s'ils ne se repentent pas, qu'est-ce qui va arriver, et ça ne devrait pas nous réjouir. Ça devrait nous attrister. C'est pour ça qu'il parle que les deux témoins sont vêtus de sacs. Parce qu'ils savent l'annonce des grands jugements l'attriste. Et là, il parle aussi de l'explication du 1260 jours qu'on a parlé un petit peu tantôt. C'est vraiment la période entre l'ascension et le retour du Christ. Alors, pour aujourd'hui, on va arrêter là et on terminera la semaine prochaine.